Bonjour, bienvenue sur Radio Picasso, Violaine et Marianne au micro. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Monsieur Azam, professeur au lycée Aragon Picasso, pour une dernière émission qui clôture nos 3 années au lycée. Bonjour Monsieur Azam.
Bonjour.
Pour commencer, pouvez-vous nous raconter une histoire marquante que vous avez vécue au collège ou au lycée ?
Une histoire marquante, je me souviens, j'adorais la philo en classe de terminale. C'est la philo qui m'aimait pas beaucoup. Et j'étais dans une classe spécialité scientifique. On devait être bien une trentaine d'élèves. Et je me souviens d'un cours où la prof était super, mais un certain nombre de camarades ne l'écoutaient pas beaucoup. Et donc, je me souviens d'un pari stupide qui avait été fait par un camarade de se mettre en caleçon pendant le cours de la prof de philo. Et pari réussi, il l'avait fait. Et la prof l'avait plutôt bien pris. Donc voilà, une petite histoire que j'ai en mémoire. Là.
Merci beaucoup. Et quand vous étiez élève, aviez-vous déjà un œil critique sur l'école ?
Non. J'ai pas beaucoup d'esprit critique, vous savez, moi. Donc, un œil critique sur l'école, non. Il y a des cours et des matières et des professeurs qui me passionnaient. Moi, c'est ça que je retenais. Après, je l'ai eu, l'œil critique, oui, un peu plus quand j'étais lycéen, par rapport au rythme qu'on pouvait avoir. Et au fait qu'on avait de longues journées de cours et que le soir, il fallait se remettre à travailler. Ouais, c'était plus par rapport à ce rythme.
Et ces remarques, est-ce qu'elles ont influencé votre pratique actuelle de la profession ?
Oui, je me suis beaucoup ennuyé au lycée. Donc je me dis, j'essaye de susciter le moins l'ennui auprès des élèves, mais je sais que c'est compliqué, puis ça ne peut pas toujours être la fiesta en cours. Il faut qu'il y ait bien sûr du plaisir, mais il y a aussi quelque chose qui peut être de l'ordre de l'austère, du répétitif, etc. Mais ouais, j'ai ce souci-là par rapport à l'ennui.
Étiez-vous un bon élève ?
Non. Non, j'étais un élève moyen, mais je marchais plutôt bien dans les matières, dans l'ensemble, dans les matières littéraires, mais j'étais pas un très bon élève.
Non. Et vos souvenirs du bac, ils sont plutôt positifs, négatifs ?
Un soulagement d'avoir eu le bac avec 4 points de marge, je crois. Ah ouais, non. Soulagé d'en finir avec ça.
Et après le bac, quelles études supérieures avez-vous suivies ?
Alors, j'étais très amoureux d'une jeune fille à cette époque. Et j'en avais un peu ras-le-bol des études et j'avais été pris dans un IUT, technique de commercialisation. Et moi, l'intérêt que je voyais dans cette formation, c'est que ça durait que 2 ans et que je partais pas trop loin et que je pourrais revoir assez fréquemment ma copine. Et je suis parti, je le dis souvent, j'ai eu le bac, j'étais pas majeur. Donc c'est mon père qui m'a emmené à la rentrée à l'IUT. C'est tout juste si j'avais pas le cartable et les chocobn dans le cartable, avec des étudiants pour certains en tout cas plus âgés, qui avaient de belles voitures de sport, etc. Donc j'étais un peu en décalage et ça m'a pas plu. Donc j'ai fait assez vite l'école buissonnière et j'allais au cinéma. Et un matin, le directeur m'a attrapé et m'a dit « Monsieur Adam, vous ne venez pas beaucoup en cours, ça ne va pas, etc. » Et donc, j'ai démissionné. Et après, depuis longtemps, j'avais vraiment le goût de l'histoire. Et donc, je suis parti en fac d'histoire. Et là, ça m'a plu tout de suite.
Est-ce que vos choix d'orientation étaient difficiles ?
Les choix d'orientation au lycée, entre la seconde et la première, j'avais des résultats corrects. Et je suis parti en filière scientifique, mais finalement, je pense que j'aurais dû partir à cette époque. Ça s'appelait filière économique et sociale. Et je pense que ça m'aurait davantage plu. Mais bon, après, à toute chose, malheur est bon. J'ai appris finalement à travailler, y compris des choses et des matières qui ne me plaisaient pas beaucoup. Et j'ai fini par aimer les maths et à voir ça un peu comme un jeu, alors que pendant très longtemps, ça ne m'intéressait pas. Donc, voilà.
Comment vous avez découvert que l'histoire-géographie, vous intéressait ?
Dès l'école primaire, où là aussi je m'ennuyais en classe, m'ennuyais souvent, mais à cette époque, on avait de vieux instituteurs qui mettaient au mur de grandes affiches, des images d'Épinal, mais très grandes. Et donc, moi, je rêvassais devant ces images. Il y avait une image, je me souviens, de résistants qui s'attaquaient à un convoi allemand. Il y avait Jeanne d'Arc, il y avait Vercingétorix qui faisait allégeance à Jules César. Tout ça, moi, ça me faisait rêver. Donc, dès l'école primaire, l'histoire m'a intéressé. Et après, au collège, j'ai eu la chance d'avoir des profs de français ou d'histoire géo qui étaient intéressants. Et ensuite, au lycée, un prof de première qui était antipédagogique au possible, c'est-à-dire qui s'asseyait et il parlait pendant 50 minutes. Mais il avait une espèce d'humour qui me plaisait bien. Et donc, et moi, je buvais ses paroles, ça me plaisait beaucoup. Donc, on faisait rien que gratter, que prendre des notes. Mais ce qu'il disait, par la parole, par l'art oratoire en quelque sorte, moi, ça me convenait. J'attendais ses cours avec impatience.
Et donc, combien de temps ont duré vos études supérieures ?
Eh bien, 5 ans, parce qu'il y a la licence, il y a 3 ans en licence. Après, à mon époque, il y avait une année en maîtrise. Et ensuite, on préparait les concours, donc pour être enseignant, le CAPES.
Vous étiez sûr à cette époque-là que vous vouliez devenir enseignant ?
Oui. Ah oui, oui. Je me souviens, mes parents m'avaient dit « Mais si tu veux, tu peux continuer, tu peux aller jusqu'au doctorat, etc. » Mais en fait, moi, j'avais envie d'être sur le terrain. L'année de petite recherche en mémoire de maîtrise, j'avais trouvé ça, travailler dans les archives. Oui, il y avait un côté intéressant, mais c'était un travail solitaire quand même. Et moi, j'avais envie de transmettre et d'être en interaction avec des personnes et avec des élèves.
Et donc, est-ce que ça a été dur pour vous de réussir les concours pour être professeur ?
Oh non, tout a été très facile, évidemment. Non, oui, le CAPES, ça s'est passé. Pas de manière glorieuse, mais ça s'est passé. Et après, l'agrégation, je ne savais même pas que ça existait. C'est un copain qui m'a dit, un copain fils de prof, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne passes pas à l'agrégation ?» Je ne savais même pas ce que c'était. Et donc, je ne l'ai pas passé tout de suite. Je l'ai passé après. Je l'ai loupé à l'oral. Et je l'ai retenté quelques années après. Et là, je l'ai eu. Donc oui, l'agrégation, ça a été plus dur. Le CAPES, ça s'est fait dans la foulée.
Quelles sont la nature des épreuves du CAPES et de l'agrégation ?
Eh ben, il y a des épreuves écrites, comme maintenant. Des épreuves écrites qui portaient sur des programmes. Et ensuite, à l'oral, on passait une épreuve, deux épreuves peut-être en histoire, je ne me souviens plus, et une en géographie. Et à l'agrégation, c'était le même système, sauf que les épreuves, par exemple la dissertation à l'agrégation, c'était 7 heures. Donc c'était 2 fois 7 heures, une en histoire, une en géo, il me semble. Et ensuite, c'était des oraux. Et il y avait un oral de hors programme, où tu peux tomber sur n'importe quoi. Et donc quand je l'ai loupé la première fois, je me suis fait massacrer. Sur Philippe II d'Espagne, ça a été un massacre.
Combien de temps cela prend de préparer ces concours ?
Ah mais c'était toute une année, une année. Une année, on devait commencer ça en septembre et on devait passer les épreuves, je ne sais plus, en mai, juin, je ne me souviens plus. Donc oui, oui, toute une année consacrée à la préparation du concours. Moi, j'avais de la chance, je n'avais pas à travailler, j'avais des camarades étudiants qui devaient travailler pour subvenir un peu à leurs besoins, pour payer les loyers. Moi, je n'ai pas eu à faire ça. Donc, ça se faisait, oui. Il fallait travailler la journée, reprendre les cours le soir. Mais enfin, ça allait. Hein.
Et quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée ?
Ah ben moi, c'était l'oral. Hein. L'écrit, ça marchait pas trop mal. Et à l'oral, j'avais plus de mal. Donc, après... l'échec humiliant dans la question hors programme sur Philippe II, eh bien, j'ai un copain qui avait tout réussi du premier coup et je lui ai demandé des conseils de méthode parce que finalement, j'ai passé ces concours sans aucun recul méthodologique. J'y allais comme ça et donc je me suis rendu compte qu'il fallait quand même avoir une petite réflexion sur les méthodes et sur les attendus dans ces concours à l'écrit, mais aussi à l'oral. Et après, ça a marché.
Tout à l'heure, vous nous parliez de vos années de fac. Est-ce que vous les avez appréciées ou pas ?
Oui, beaucoup. Beaucoup. Et alors, il y a des gens, lorsqu'ils parlent de leurs années d'études, ils vont vous parler des fêtes, etc. Moi, je n'allais pas aux fêtes. Je ne sais même pas s'il y en avait. J'étais à Lyon 2, au campus. Enfin, c'est même pas un campus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de logements. En tout cas, à mon époque, il n'y avait pas beaucoup de logements étudiants à côté. Mais moi, je me régalais en cours. J'ai eu de très bons profs. Et j'allais travailler à la bibliothèque universitaire. Et puis ça me laissait le temps le week-end pour aller voir les copains, les copines. Donc oui, moi j'ai de très bons souvenirs de ces années-là. Hein. Ouais.
Comment a été votre première affectation en tant que professeur ?
Alors j'ai été nommé en stage au lycée de Jacob Holzer, au lycée de Firminy. Donc je me suis retrouvé avec des élèves, des lycéens, dont certains avaient à peine 2 ou 3 ans de moins que moi. Donc j'ai eu un peu de mal à gérer ça, à faire, entre guillemets, régner un peu de discipline et un peu d'écoute dans la classe. Mais sinon, ça m'a beaucoup plu.
Dès la première année, vous avez su que ça vous plaisait beaucoup.
Oui, alors après, il y a toujours un décalage hein, entre l'idée qu'on se fait d'un métier, d'une activité qu'on va conduire, qu'on va mener. On idéalise parce qu'on a aimé ce que l'on a étudié et on a envie de transmettre. Et on se retrouve face à des publics qui n'ont pas toujours l'envie de recevoir ce qu'on veut transmettre. Donc c'est ce décalage entre l'idéal et la réalité qui est un peu dur à vivre. Mais bon, on se remet en cause et puis et on avance.
Et quelle a été votre solution par rapport à l'écart d'âge qui était minime entre vous et les élèves ?
Je ne sais pas. Je pense que les élèves sentent aussi que le professeur a envie d'être là, qu'il aime ce qu'il transmet et qu'il peut être plutôt bienveillant. Donc j'essayais de faire des remarques aux élèves qui n'écoutaient pas. Et certains avaient la gentillesse de tenir compte de ces remarques. D'autres, c'était un peu plus difficile à assimiler. Mais voilà, j'ai pas eu de stratégie particulière à l'époque. Hein. Je me suis dit, ouais, bon, puisque quand on est stagiaire, on a un maître ou une maîtresse de stage. On est vu 1 ou 2 fois dans l'année. Donc j'ai essayé de tenir compte des remarques qui m'avaient été faites. Comme quoi, il fallait installer une ambiance de travail plus stable, plus sereine. Donc j'ai essayé de faire ça avec les élèves finalement, peut-être pas contre eux. Je ne me souviens pas avoir, par exemple, multiplié les punitions ou ai-je puni, sans doute. Mais ce n'est pas ça que je retiens.
Et donc, quelles difficultés avez-vous rencontrées en rentrant dans le métier de professeur ?
C'est ça, c'est la gestion de la classe. Comment tu te débrouilles avec des élèves qui n'ont pas envie, qui n'ont pas envie de recevoir forcément ce que tu veux transmettre, qui pensent à autre chose, qui peuvent s'ennuyer, qui peuvent avoir envie de rigoler. Comment tu te dépatouilles avec ça, avec ces élèves-là ? Donc, c'était ça la principale difficulté.
Et par rapport à cela, je ne sais pas, peut-être que vous avez aussi enseigné au collège, en plus du lycée.
Oui.
Est-ce que vous avez déjà eu l'idée d'enseigner dans le supérieur ?
Non. De toute façon, je n'avais pas les diplômes pour. Puisque pour candidater pour être maître de conférence dans le supérieur, il faut avoir en histoire l'agrégation et puis il faut avoir un doctorat. Et moi, le doctorat, ça ne me tentait pas. J'ai donné quelques cours à Sciences Po. Mais en fait, alors c'était intéressant à préparer intellectuellement, mais il n'y avait pas d'interaction. J'étais frustré, je parlais comme aujourd'hui à un micro, puisque les cours étaient enregistrés. Et finalement, donc on ne pouvait pas prendre le temps de dialoguer avec les élèves. Certains étaient lycéens, d'autres étaient étudiants. Donc je trouvais ça un peu frustrant.
Ça veut dire que dans votre vision de l'enseignement, c'est important pour vous la communication
Oui, et un minimum d'échanges, oui. Parce qu'en fait, ça nous porte, nous les professeurs, en tout cas moi, ça me porte. Et des fois, je le dis, les élèves pensent que je blague, mais je ne plaisante pas quand je dis à un élève, purée, mais la question que tu me poses, ça me fait penser à ça. Enfin, ça nous fait avancer vraiment dans la progression du cours. Donc moi, je l'envisageais comme ça. Même si j'aime bien aussi qu'il y ait des séances où je me tais et les élèves sont en activité et construisent même quelque chose. Et moi, je supervise, mais je me fais discret. Donc ça aussi, j'ai appris, mais ce n'est pas venu tout de suite, hein, mais j'ai appris à avoir du plaisir aussi à organiser des séances durant lesquelles je vais pratiquement m'absenter et voir les élèves travailler en autonomie, seul ou en groupe. Ça peut être vraiment un grand plaisir. Mais ça, je l'ai vécu plus tard.
Et au bout de combien d'années êtes-vous arrivé au LPO ?
Au lycée Aragon, ça fait 24 ans que je suis au lycée. Donc j'ai fait un an de stage à Firminy, ensuite un an dans un collège en Normandie. Et après 6 ans dans un collège ZEP, zone d'éducation prioritaire, à mes yeux. Et après 2 ans dans le lycée Chaplin à Décines et ensuite au lycée Aragon.
Et vous avez dit avoir travaillé dans un collège. Quelle est la principale différence entre le collège et le lycée au niveau de la matière de l'histoire-géographie ?
Disons que la différence, c'est qu'au lycée, je ne me suis pas battu avec un élève. Alors qu'au collège, oui. Mais non, il n'y a pas que ça, je blague. Mais tu me demandais la différence entre dans la manière d'enseigner ?
Dans la manière d'enseigner avec le rapport aux élèves, peut-être ?
Ah ben, moi, je te trouve qu'au lycée, c'est pour ça que je suis resté au lycée, on peut tabler quand même sur une autonomie plus grande des élèves. Enfin, moi, c'est un public qui me correspond bien, qui me va bien, le public lycéen. J'aimais bien mes années collège, c'était bien, mais je ne me voyais pas rester toute ma carrière, comme on dit, au collège, parce qu'il y a une autonomie, forcément, hein, qui est moins grande, une maturité qui est moins grande. Donc, on peut faire des choses très intéressantes aussi, bien entendu, au collège. Mais moi, je sais que je préfère être au lycée parce que je peux tabler sur cette maturité et sur cette autonomie plus grande des élèves. Et je trouve que ça ouvre plus de possibilités sur la façon de pratiquer l'enseignement. Mais ça, c'est parce que ça me correspond à moi, hein.
Et au-delà de l'histoire-géographie, est-ce qu'au lycée, vous enseignez la spécialité AGGSP ?
Oui, je l'ai enseigné 3 ans ou 2 ans en première. Et ensuite, là, ça fait 2 ans en terminale et normalement encore un an l'an prochain.
Et donc, quelle est la différence entre cette matière, on va dire, nouvelle et l'histoire-géographie qui est dans le tronc commun et donc classique ?
Ouais. J'adore la spécialité AGGSP parce que on croise plusieurs disciplines et donc on peut jouer sur la transversalité et puis les thèmes, les sujets, ce qu'on appelle les jalons qui nous sont proposés sont très intéressants. Moi, j'ai appris plein de choses en enseignant cette spécialité. J'ai dû, comme tous mes collègues, approfondir certaines questions que je ne maîtrisais pas. Et je trouve ça très, très intéressant, cette idée de croiser. Finalement, on ne fait pas que de l'histoire. Bien sûr qu'il y a de l'histoire, il y a de la chronologie, mais il y a de la géographie. On s'intéresse aux relations internationales, on joue sur plusieurs échelles. Il y a aussi l'aspect sciences politiques. Enfin, tout ça, cette transversalité disciplinaire, je trouve ça très intéressant.
Qu'aimez-vous le plus dans votre métier ?
Ce que j'aime le plus, c'est transmettre. Susciter un peu de la curiosité chez les élèves, accompagner, voir des élèves qui vont poser des questions et on va essayer de répondre, de préciser un certain nombre de choses et voir qu'auprès de certains élèves, ça marche. On les aide à comprendre soit du contenu du cours, soit des attendus du point de vue de la méthode. Donc ça me plaît beaucoup. Et puis il y a les liens qu'on va créer, en tout cas avec certains élèves, et qui sont des liens humains forts pendant les 2 ou 3 ans où on se côtoie, ou même parfois après, puisque certains élèves ont la gentillesse de nous donner de leurs nouvelles après les années lycée.
Et qu'aimez-vous le moins ?
Les copies, c'est épouvantable. Je m'amuse à corriger, j'aime bien corriger les copies du bac blanc et les copies du bac. Mais alors le reste du temps, ça m'ennuie, j'aime pas ça, j'aime pas. Mais bon, c'est un passage obligé, hein. Il faut noter. Mais je n'aime pas ça.
Vous vous investissez depuis plusieurs années dans la promotion du LPO, dans les collèges alentours. Pourquoi est-ce important pour vous ?
C'est une question... C'est vrai, c'est une question importante pour moi et puis pour plein de collègues, de parents d'élèves, c'est de parvenir à maintenir une mixité sociale dans cet établissement. Parce que finalement, on a l'impression, depuis quelques années, dans le monde de l'éducation, qu'on va vers une sorte de polarisation. Là, c'est un mot très à la mode, mais finalement, il y a des étapes... Il y a beaucoup d'établissements où il n'y a plus cette mixité. Il y a des établissements qu'on va appeler ghettos, dans lesquels ne se retrouvent que des élèves de même conditions, que ce soit des conditions sociales très défavorables ou alors très favorables. Et finalement, on n'apprend plus à se côtoyer entre personnes, entre élèves de conditions de milieux, d'origine géographique différente. Et donc l'enjeu, c'est d'aller présenter effectivement le lycée dans des collèges où l'on sait qu'une partie des parents ont des craintes par rapport au fait de mettre leur enfant dans cet établissement où il y a cette mixité qui peut être perçue parfois comme, entre guillemets, néfaste pour la sécurité, pour la scolarité, pardon, de leur progéniture. Et mon lapsus est valable aussi pour la sécurité aussi. Donc on y va pour rassurer et pour dire qu'effectivement, on peut suivre une scolarité tout à fait satisfaisante et même très ambitieuse dans cet établissement.
Et pour vous, quel est l'apport de cette mixité ?
L'apport, il est, moi, je trouve qu'il est essentiel. Parce que finalement, on est dans l'éducation, on est dans la formation. Alors, il y a un apport qui se fait d'abord dans notre classe. Moi, j'adore. Hein. Alors, vous le savez, je suis un peu psychorigide, je fais des plans de classe. Mais alors, mes collègues me chambrent un peu parce que je leur dis que je prends du plaisir à préparer un plan de classe. Et moi, mon plaisir, c'est de effectivement de savoir à l'avance que je vais placer une élève... Avec à ses côtés un camarade, ils ne se connaissent pas, ils ne viennent pas du tout du même milieu, de la même ville, de la même zone, et de voir comment ça va prendre, plus ou moins. Mais en tout cas, au moins, on essaye. Et il y a ce temps-là du lycée, et puis je me dis, mais on s'aime aussi pour l'après. C'est-à-dire que je me dis, mais des élèves qui ont pris l'habitude de côtoyer des gens d'origine, de milieu, de zones géographiques différentes, je pense que ça donnera aussi des adultes qui, dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle, sauront s'adapter, sauront aller vers les autres, auront moins de préjugés. Donc c'est ça l'enjeu.
Qu'est-ce que, selon vous, l'éducation nationale n'arrive pas à faire aujourd'hui ou a du mal à faire ?
Vous avez 3 heures devant vous.
Pas loin.
Alors, qu'est-ce que l'éducation nationale ne parvient pas à faire ? Eh bien, moi, je trouve que l'éducation nationale et que nos dirigeants, nos ministres, devraient appuyer davantage, soutenir davantage, justement, les établissements qui luttent pour maintenir une mixité. Et ce sont ces établissements qui devraient être privilégiés, en quelque sorte. Et y compris, je pense, aux collèges, les collèges REP, REPLUS, devraient, je sais, on nous dit que déjà on leur affecte davantage de moyens, mais je trouve qu'on devrait leur donner beaucoup plus de moyens pour que, effectivement, on évite la ghettoïsation. Et donc ça, c'est ce que je reproche à nos dirigeants. Là aussi, faut pas aller vers les préjugés, les raccourcis. Moi, ce que je constate, c'est que la plupart de nos ministres de l'éducation nationale, depuis plusieurs années, ont connu leur scolarité dans le privé et mettent leurs enfants dans le système privé. Donc je me dis, ben oui, quelque part, il y a peut-être une logique au fait qu'on n'accorde pas plus d'importance aux établissements publics qui essayent de maintenir ou d'entretenir une mixité sociale.
Et donc, cette aide, vous la verriez plutôt matérielle ou financière, par exemple ?
Oui, matérielle, financière, du point de vue de l'encadrement. Je pense qu'on peut convaincre, du point de vue aussi des projets qu'on peut mener, je pense qu'on peut convaincre les parents de mettre les enfants, leurs enfants, dans le système public si ces parents ont des garanties. Des garanties par rapport à l'encadrement, il y aura un nombre d'adultes suffisant. Des garanties par rapport aux conditions de cours, au niveau auquel on va pouvoir prétendre. Des garanties par rapport au travail sur l'orientation. Que ce soit pour des élèves d'un niveau moyen ou pour des élèves d'un niveau plus élevé, et qu'on puisse leur garantir que, en inscrivant leurs enfants dans ces établissements, eh bien, leurs enfants seront même peut-être plutôt privilégiés pour obtenir un certain nombre d'orientations, y compris ambitieuses, après le bac.
Vous êtes un professeur qui organise aussi beaucoup d'activités en dehors des cours ou qui s'apprend. Porte à vos cours ?
Oui. Oui, oui. Mais là aussi, il faut bien qu'il y ait quelques privilèges au fait d'avancer dans l'âge. Donc, au bout d'un moment, on se constitue, sans le vouloir d'ailleurs presque, un petit carnet d'adresses. Et en fait, moi j'aime bien, de plus les années passent, plus j'aime bien qu'il y ait des intervenants extérieurs. J'aime bien oxygéner un peu ma salle de classe et mes cours avec des interventions, avec des intervenants extérieurs. Et en fait, plus les années passent, plus finalement je m'inscris dans des projets avec des intervenants extérieurs. Et finalement, après, ça facilite les choses, puisque des intervenants qui ont pu venir au lycée vont parler à d'autres personnes qui vont me solliciter et qui vont me proposer des actions. Donc au bout d'un moment, on a même, j'ai même pas à démarcher, je reçois des propositions et en fait, je suis maintenant plus dans l'optique d'en refuser certaines. Alors après, je ne sais pas ce que les élèves en retirent. Moi, je trouve que c'est... Enfin, je sais que parfois, ça peut être très important, ces interventions extérieures, et pour le cours, et même pour la vie des élèves, parfois.
Est-ce que vous pouvez nous en donner un exemple ?
Les actions qu'on mène avec l'association Graines d'Orateurs, avec Gréasi et d'autres intervenants, donc ces gens qui viennent de la région parisienne pour donner des méthodes concernant la prise de parole. Concrètement, on en voit quand même des effets très positifs pour nos élèves. Et ça passe bien auprès des élèves, parce que ce sont de jeunes intervenants et qui ont leur propre manière de travailler, de faire, qui ont des références plus actualisées que les miennes par rapport à certains sujets ou certains exercices, et je trouve ça super.
À l'échelle du LPO, quelles solutions on pourrait tenter de mettre en place pour répondre aux problèmes de l'éducation nationale ?
Oula ! Moi, je trouve qu'il y a il y a beaucoup de choses qui sont faites dans cet établissement. Donc, on peut toujours faire mieux, bien sûr. Mais il y a quand même beaucoup d'actions. Il y a beaucoup de professeurs qui mènent des projets, des voyages, mais aussi qui font venir des intervenants, qui procèdent aussi à des visites d'établissements. On sort aussi du lycée et c'est important de sortir. C'est important d'accueillir des intervenants extérieurs, des gens qui viennent d'autres horizons, des étudiants, des chercheurs, des professionnels. Mais c'est important aussi de se déplacer et de sortir de Givors. On le voit des fois très concrètement. Cette année, avec Madame Gaget, on a fait des sorties lors de certains mercredis après-midi dans le cadre de l'accord des santé. Pour certains élèves, c'était quelque chose déjà de particulier de prendre le TER, d'aller à Lyon, ensuite de prendre le métro et d'aller rencontrer des professionnels. Donc y a beaucoup d'actions qui sont faites comme ça dans le cadre de l'établissement. Donc c'est déjà très bien.
En lien aussi avec ce que vous venez de dire, ça fait une vingtaine d'années que vous êtes au LPO. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis votre arrivée au lycée ?
Qu'est-ce qui a le plus changé ? Peut-être l'impression que j'ai ces dernières années, c'est qu'il y a peut-être un écart qui s'est creusé. Du point de vue du niveau des élèves, je trouve qu'on a, il me semble, peut-être davantage d'élèves en grande difficulté. On en a toujours eu, mais il y en a un peu plus, il me semble. Alors, ça fait 2 ans que je n'ai pas les secondes, mais le souvenir que j'ai lors de mes dernières années où j'ai eu des secondes, c'est qu'il y avait un écart qui s'était creusé et que les élèves en difficulté l'étaient vraiment en difficulté et qu'on avait du mal à les aider à progresser. C'était compliqué.
Et comment expliqueriez-vous la nature de ces écarts ?
Alors, peut-être aussi, quand on discute avec les professeurs, les collègues des collèges environnants, le retour qu'on peut avoir, en tout cas de la part de certains collègues, c'est que bon, les écarts se creusent aussi au niveau du collège, mais qu'il y a aussi de la difficulté en ce qui concerne le travail d'orientation. C'est-à-dire qu'un certain nombre de collégiens qui ont des difficultés dans l'apprentissage, en tout cas académique, hein, des matières que l'on va retrouver au lycée, ben, ces élèves-là ne parviennent pas, pour diverses raisons, soit ne veulent pas, soit ne parviennent pas à trouver d'autres voies d'orientation. Donc, par défaut, ils vont se retrouver au lycée, mais finalement, sans avoir vraiment de l'appétence pour les matières qu'ils vont retrouver, pour l'enseignement académique du lycée. Et donc, ça peut être un élément d'explication. C'est difficile de tenir à la fois... C'est très bien, moi, il me semble que par rapport à il y a 40 ou 50 ans, on a connu un processus de démocratisation de l'enseignement et de l'accès au lycée et de l'accès à l'université. Et il y a un côté formidable là-dedans, puisqu'autrefois, il y a beaucoup de jeunes qui, finalement, se trouvaient privés de cet accès-là. Donc ça, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est qu'on a ouvert grand les portes, mais qu'on ne propose pas suffisamment, à mon sens, hein, de diversité dans le processus d'orientation pour ces élèves de collège qui se retrouvent, je le répète, par défaut au lycée et qui, pour beaucoup, vont s'ennuyer, vont connaître des difficultés, peut-être parfois vont moins bien se tenir en classe, mais on peut le comprendre aussi par ailleurs. Hein. Moi, si je me retrouvais dans un cours de physique quantique au niveau doctoral ou je sais pas quoi, sans doute que j'étais à côté d'un de mes collègues, de M. Lemossel ou autre, je suis sûr que je me mettrais à discuter et à bavarder, voire plus.
Le métier de professeur est un métier très solitaire. Quelle place occupe pour vous le collectif ?
J'en ai pris conscience au fil des années. Une place essentielle, je trouve. Je pense que ça peut aider, moi qui suis plus proche de la fin de la carrière que du début, je pense que ça peut vraiment aider de s'inscrire dans un travail collectif, de trouver des collègues avec qui on se sent à l'aise, avec qui on va partager à peu près les mêmes manières de faire, eh ben, ça porte et ça aide, il me semble, ça peut aider à ne pas devenir un vieux prof aigri qui va ressasser sur justement la baisse du niveau, mais Aristote l'évoquait déjà, la baisse du niveau. Donc justement parce qu'on va s'inscrire dans un collectif qui va nous porter et qui va nous mener vers des projets un peu différents ou réactualisés. Et ça peut vraiment aider. Donc pour moi, c'est essentiel parce que c'est vrai qu'après, on est seul dans notre salle de cours, on est seul face à nos copies. Et s'inscrire dans des projets par équipe, je trouve que c'est quelque chose de très porteur.
Et est-ce que vous pensez que c'est obligatoire pour être un bon professeur ?
Non, sans doute que non. Il y a des professeurs, et ben grand bien leur fasse, qui, eux, vont être tout à fait heureux en faisant cours de manière solitaire, en ne s'inscrivant pas dans des projets d'équipe. Et ma foi, si ça se passe bien, tant mieux pour eux. Et s'ils sont contents de ce qu'ils font et de la relation qu'ils ont avec les élèves, très bien.
Monsieur Azam, vous avez déjà bien entamé la deuxième partie de votre carrière. Est-ce que cela vous inquiète de devenir un vieux professeur ?
Ouais, tu vois, je viens d'en parler. Je voudrais pas... Comme on dit, c'est des champions qui disent... ou des sportifs, je ne voudrais pas faire le match de trop, etc. Mais bon, de toute façon, le match, il faut le faire jusqu'à 64 ans, hein, pas le choix. Mais j'espère bien ne pas être en difficulté et ne pas devenir aigri pour les années qui me restent. Pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. l'enthousiasme, je l'ai, ça me nourrit. Et donc, des fois, certains collègues ou des proches peuvent me dire que je fais beaucoup de choses, parce que oui, j'ai peut-être du mal à dire non, mais aussi parce que ça me porte.
Ça se ressent.
Oui, tant mieux.
Et est-ce qu'en vieillissant, c'est plus dur de rester proche des nouvelles générations d'élèves ?
Ah, peut-être. Ça, le décalage avec les générations, 35, 40 ans d'écart, purée, c'est énorme. J'essaye d'écouter Skyrock ou d'autres médias pour essayer de me tenir à la page. Mais oui, peut-être. Hein, mais pour l'instant, je ne le ressens pas trop. Je peux le ressentir quand je fais les moments de pause en classe et que je donne l'ordre aux élèves de ne pas toucher leur téléphone et que je vous dis « parlez-vous ». Discuter, etc. Donc là, je me dis, oui, ça, c'est quelque chose que j'étais pas obligé de dire il y a une vingtaine d'années aux élèves. Mais après, oui, bien sûr qu'il y a sans doute un décalage. Moi, je suis pas à la place des élèves, mais je me dis bien, si je me mets à leur place, ils voient un prof âgé, on va dire, d'une bonne cinquantaine d'années, s'agiter devant eux, bon, ils peuvent se dire, ouais... Mais voilà, autrement, pour l'instant, ça va.
Et est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour un professeur de se renouveler ?
Oui, parce que d'essayer de se renouveler, oui, il me semble que c'est nécessaire sur le contenu, sur ce qu'on peut essayer, sur le contenu des cours, même si on ne peut pas, moi je ne renouvelle pas tout à chaque fois, mais parce que je trouve que quand on enseigne quelque chose et qu'on change un peu d'angle, ça va nous intéresser de changer d'angle, d'essayer une autre manière de faire. On ne peut pas le faire, bien sûr, à chaque cours. Mais il me semble que les élèves vont sentir l'intérêt qu'on a. Et des fois, quand des élèves me disent « mais ça ne vous embête pas d'enseigner depuis 20 ans ou voire plus la Seconde Guerre mondiale ?» Tout dépend. Et comme je ne l'enseigne plus de la même manière qu'il y a 20 ans ou il y a 10 ans, je garde un intérêt. Et donc, il me semble que ça, les élèves peuvent le ressentir. Donc, ça peut nous aider dans la façon de faire notre cours et dans la manière qu'on aura de transmettre.
Ça nourrit les élèves, mais ça nourrit aussi les professeurs, finalement.
De changer ? Ah oui, bien sûr. Quand on parle des sujets de grand oral, finalement, on peut vous donner des pistes. Et puis après, c'est vous qui allez devenir des spécialistes. Et ça fait envie, on a envie d'en savoir plus, tout à fait.
Et est-ce que le renouvellement des programmes peut être vu aussi comme une charge par les professeurs ?
Oui, ça peut faire râler, parce que purée, il va falloir refaire un programme. Mais moi, je trouve que c'est nécessaire. Je trouve que c'est bien qu'il y ait ces changements de programme. Alors, peut-être pas tous les deux ou trois ans, hein. Mais oui, je trouve que c'est bien parce que, comme je l'ai dit pour la spécialité AGGSP, c'est bien de s'intéresser à un domaine qu'on ne maîtrise pas en tant que professeur. Parce qu'on va pouvoir aussi mesurer un peu les difficultés de cette nouvelle partie de programme et on peut donc aussi partager un peu et comprendre les difficultés que les élèves vont rencontrer aussi par rapport à ce nouveau programme. Ou à cette nouvelle partie de programme.
Et vous l'avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça vous fait de voir vos élèves partir ?
Un grand soulagement, ouf, ils s'en vont. Moi, je trouve ça super. C'est rassurant que des élèves veuillent partir du lycée. On est bien d'accord. Et bien sûr qu'il y a un pincement au cœur. Ça fait quelque chose aussi, parce qu'on a partagé un parcours pendant un an, deux ans, trois ans. Et en même temps, je trouve ça très bien. Les élèves partent vers plein de chemins possibles et je trouve ça super. C'est pour ça que j'aime aussi travailler sur l'orientation, parce qu'on travaille sur l'après. Et je trouve ça très intéressant de partager les projets pour l'après avec des élèves. Avec leur lot de questions, de doutes, d'incertitudes. Donc, comme je dis toujours, il ne s'agit pas de dramatiser tout ça. Il faut le prendre au sérieux. Il faut le travailler aussi, l'après. Mais je trouve ça... C'est une ouverture.
Vous avez l'air de beaucoup apprécier votre métier de professeur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous conseilleriez le métier d'enseignant ?
Oh purée, la question. Oui, alors moi, je le conseillerais. Mais il faut se poser des questions. Pourquoi je veux faire ça ? Pourquoi je veux faire ce métier ? D'accord, j'aime bien, je suis transporté par une matière. J'adore la philosophie, le français, l'histoire, peu importe. Et après, il faut se demander, mais comment je suis, moi ? Est-ce que je suis à l'aise avec des jeunes ? Avec un jeune public ? Est-ce que je vais aimer transmettre ? Il y a un certain nombre de professeurs qui, avant de devenir professeurs, moi, je pense que ça devrait même être obligatoire, passaient le BAFA. C'est un brevet d'animation. On est bien d'accord, un professeur n'est pas un animateur. Mais je sais, moi, à titre personnel, ça m'a beaucoup aidé d'avoir encadré des jeunes avant d'être professeur. Parce que finalement, quand je me suis retrouvé à Firminy, là, devant un public qui avait 2-3 ans de moins que moi, le public adolescent ne me faisait pas peur. J'avais l'habitude de faire de la montagne avec des adolescents tous les étés. Et j'avais pas peur. J'ai pu rencontrer des difficultés, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais j'avais pas cette crainte. Donc moi, je conseillerais bien sûr à un jeune. Bah, d'ailleurs, on a d'anciens élèves qui viennent nous voir, qui viennent faire des stages. J'en ai eu une cette année, il y a pas très longtemps. Donc je le conseillerais, mais il faut se poser la question, est-ce que ça va me convenir ? Ok, j'aime une matière, j'ai envie une discipline, j'ai envie de la transmettre. Mais comment je vais me positionner par rapport à ce public adolescent ? Et voilà, il faut se poser ces questions-là.
Est-ce que pour vous, ces capacités relationnelles avec un jeune public est forcément innée ou c'est quelque chose qui peut se travailler avec les années ?
Ouais, il y a une part de l'inné, oui. Il y a des gens qui vont être facilement à l'aise avec un public. Et avec un public adolescent. Mais je suis convaincu que ça se travaille aussi, hein, bien sûr. Heureusement que tout n'est pas joué quand on devient professeur à 23, 24, 25 ans. Hein. Bien sûr, ça peut se travailler. Il y a des collègues qui demandent des conseils, qui sont accompagnés et qui deviennent plus à l'aise après dans leur métier, dans leur profession. Hein.
Et donc pour vous, quel est le candidat type pour devenir professeur ?
Quelqu'un, je pense, quelqu'un qui aura une bonne maîtrise de sa discipline, de sa matière, qui aura le goût pour cette matière et qui aura une bonne discipline de cette matière. Parce que quand même, une partie de notre crédibilité auprès des élèves, elle se joue aussi par la maîtrise de cette discipline. Les élèves, s'ils sentent qu'on est très fragile du point de vue du contenu, du point de vue des méthodes, forcément, ils vont avoir une image un peu altérée de leur professeur. Il y aura cet aspect-là. Et puis, il y aura aussi d'autres capacités, d'autres compétences dans le domaine du relationnel, une volonté d'accompagner, je sais que c'est un mot qui est très moqué, de la bienveillance, parce que ça a été beaucoup utilisé. Mais l'idée d'être exigeant sans être humiliant, c'est pas la peine. On n'a pas besoin d'humilier ou de rabaisser des élèves, à mon sens, pour qu'ils se tiennent bien en classe et puis pour qu'ils travaillent davantage. On peut le dire, moi je ne suis pas du tout convaincu qu'une méthode hyper autoritaire, hyper vexatoire, humiliante, etc., puisse porter ses fruits.
Est-ce que pour vous, le professeur doit forcément représenter un modèle pour ses élèves ou pas ?
Non, mais moi je le dis aux élèves, vous êtes à des âges, vous n'êtes plus des enfants, et vous êtes à des âges où vous commencez, et c'est très bien, à porter un regard critique sur les parents et sur les professeurs aussi, et sur le monde adulte que vous découvrez là, enfin que vous découvrez. Et je trouve ça très bien. Donc est-ce que le professeur doit être un modèle ? Non, si déjà on donne un peu envie, on suscite un peu de curiosité et on arrive à partager, là aussi un mot un peu galvaudé, mais un peu des valeurs communes quand je parlais de la du fait que c'était pas nécessaire d'humilier des élèves ou de les rabaisser pour obtenir quelque chose d'eux. Après, non, j'ai pas envie d'être un modèle. Au contraire, si les élèves peuvent, si j'ai aidé des élèves à cultiver un esprit critique et à devenir même critique par rapport à mon enseignement ou par rapport à ce que je peux dire parfois ou expliquer, très bien. Pour moi, la mission, elle est réussie.
Avec votre expérience, avez-vous des conseils pour nous qui allons dans le supérieur ?
Ayez confiance en vous. Fuyez le syndrome de l'imposteur. Dites-vous que vous êtes à votre place. Et ensuite, allez vers ce qui vous plaît, ce qui va vous convenir. Parce que finalement, l'enseignement supérieur, au départ, en première année, c'est très large, les enseignements que vous allez recevoir. Et c'est petit à petit que vous allez vous spécialiser et vous diriger. Eh bien, dirigez-vous vers des choses qui vont vous convenir, qui vont vous plaire. Et ne vous dites pas, faut que je fasse comme machin, faut que je fasse comme machine. Essayez de suivre, vous le sentez ça, ce qui va vous convenir, ce qui va vous plaire. Parce qu'une vie professionnelle est longue de nos jours. Elles sont amenées à être longues, les vies professionnelles. Et vous en aurez sans doute plusieurs, d'ailleurs. Mais donc, allez vers ce qui vous convient, ce qui vous fera plaisir, ce qui va faire que le matin, quand vous allez vous lever, vous serez content de faire ce que vous avez à faire dans le cadre professionnel.
Nous sommes sur le point de conclure cette interview. Avez-vous une dernière chose à ajouter ?
Écoutez, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai passé une très bonne année. Alors, avec vous, mais je l'ai dit de toute façon à toutes les classes que j'ai eues cette année, parfois avec des moments un peu plus compliqués, mais vraiment, j'ai passé une très bonne année. J'ai été content de venir tous les jours au lycée, et ça, je vois ça vraiment comme une chance. Donc, merci à vous.
Vous avez été un excellent professeur. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était Marianne et Violaine au micro de Radio Picasso.